Allô, ici Louis-Jean du groupe Carquois et vous écoutez la seule radio communautaire francophone en Colombie-Britannique, CILSFM.
Wikiversa, c'est l'émission qui vous emmène sur les festivals de l'été à Victoria. On se retrouve sur CISFM 107.9 le mercredi à 9h, le vendredi à 18h et le dimanche à 15h pour profiter ensemble de l'ambiance estivale de la ville.
Octobre, il est 16h. Bonjour à tous les auditeurs du CILS FM 107,9 à Victoria. Alexis Gagnon au micro. C'est parti pour une nouvelle édition bien remplie du débrief. L'info commence tout de suite dans le débrief avec les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Je vous retrouve dans 4 minutes avec la météo détaillée. On parle bien sûr aujourd'hui de l'avertissement de vent et de pluie qui est en vigueur sur le Grand Victoria. On enchaînera avec le bulletin des Nations Unies et d'autres actualités, notamment les actualités provinciales. En interview, en fin d'émission, je retrouve mon collègue Adrien Blanc, journaliste à CILS et animateur de l'émission Rendez-vous, une émission hebdomadaire d'actualité du Grand Victoria. Adrien était à la conférence de presse de la maire de Victoria, Lisa Helps, aujourd'hui. La maire réagissait à la première place obtenue par la ville de Victoria à l'échelle canadienne pour la situation des femmes. Bonne émission à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, mesdames, messieurs. Réunion fédérale provinciale territoriale des ministres responsables de la justice et de la sécurité publique à Halifax. Les ministres échangent jusqu'à vendredi sur des sujets touchant le secteur de la sécurité. Ils se rencontrent pour la première fois depuis janvier dernier. Ils ont pour but d'établir des relations de travail et de discuter des priorités en matière de justice et de sécurité publique pour la population canadienne. Le bureau du juge avocat général des Forces armées canadiennes lance un processus de consultation auprès des Canadiens, et ce dans le cadre de la révision globale de la Cour martiale. Les membres de l'équipe chargée de l'examen solliciteront notamment l'avis de divers intervenants, groupes de défense des droits des victimes, universitaires et experts internationaux. Le but des consultations sera d'assurer que le système des cours martiales est efficace et qu'il cadre avec les valeurs canadiennes et la primauté du droit. La population canadienne peut faire parvenir ses commentaires jusqu'au 7 novembre. Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a animé la troisième de 6 discussions avec des représentants de différents secteurs et des membres du public à Toronto. L'événement a eu lieu dans le cadre des consultations sur le contenu canadien dans un monde numérique. La population canadienne est invitée à s'inscrire afin de participer aux activités Facebook Live qui se dérouleront le 28 octobre et également le 7 novembre. Concernant la discussion de mercredi maintenant, bien Mélanie Joly a dit que ces discussions vont permettre éventuellement de mieux comprendre les enjeux et les attentes concernant la découverte et la promotion du contenu canadien. Partenariat qui fait jaser entre l'Université Carleton à Ottawa et Shopify Incorporé, l'entreprise de commerce électronique et l'université viennent de lancer un programme où 11 étudiants n'ont pas à payer de droits de scolarité. De plus, ils peuvent toucher un salaire tout en apprenant en milieu de travail. Le programme a pour but de faciliter la transition pour les étudiants universitaires de premier cycle au monde du travail. Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, a dit que les étudiants universitaires et collégiaux devraient avoir plus d'occasions d'apprentissage avec une intégration au milieu de travail. Nouveau programme fédéral pour améliorer la sécurité ferroviaire partout au pays. Le programme de 55 millions de dollars visera l'amélioration de la sécurité sur la propriété ferroviaire le long des voies ferrées et au passage à niveau. Il sera question aussi de feux clignotants, de sonneries ou encore de barrières, mais également de sensibilisation, d'éducation et de messages d'intérêt public. Politique américaine, selon des documents révélés par WikiLeaks ce mercredi, l'équipe d'Hillary Clinton a songé au dossier de l'oléoduc Keystone XL pour dévier l'attention des gens du dossier des courriels. Et pendant ce temps, dans le camp républicain, la controverse entre Donald Trump et Paul Ryan se poursuit de plus belle. Lors d'une allocution en Floride, Trump a dit qu'il ne voulait pas du soutien de Ryan. De plus, des allégations de collusion entre certains supporters pro-Trump et des membres du Congrès pour éliminer politiquement Ryan ont été rapportées par le réseau CNN. Investissement de 54 millions de dollars du fédéral dirigé à l'endroit du secteur de l'innovation. D'après le gouvernement, les entreprises canadiennes pourront mettre au point des technologies aéronautiques de prochaine génération. Le financement ira à un groupe de 15 entreprises d'enseignement dans l'ensemble du pays. Ces entreprises auront pour mission de mettre au point des systèmes électriques de pointe et des systèmes aérodynamiques avancés. Le NCSM Vancouver est arrivé à Singapour pour mener une visite de bienveillance dans le cadre de l'édition 2016 de l'exercice Westploy. L'exercice vise à établir des liens plus solides entre la Marine royale canadienne et les marines des pays de l'Asie-Pacifique. Le déploiement permettra au Canada de mettre à l'essai les capacités de combat des navires de guerre de la classe Halifax après les mises à niveau d'équipements effectuées dans le cadre du projet de modernisation de ces navires. Au sport, début hier soir du calendrier régulier de la Ligue nationale de hockey et victoire d'Ottawa 5-4 contre Toronto. Cependant, la recrue des Leafs, Auston Matthews, est devenu le premier joueur à marquer 4 buts à son premier match dans la Ligue nationale. Ailleurs, eh bien, Saint-Louis 5, Chicago 2, Edmonton a vaincu Calgary 7-4, 3 points pour Connor McDavid et San Jose 2, Los Angeles 1. Ce soir, entre autres, Montréal sera à Buffalo et la Caroline à Winnipeg. Au baseball majeur, eh bien, série de division dans la Ligue nationale. Match décisif entre Los Angeles et Washington ce soir. Le gagnant affrontera Chicago en série de championnat. Et dans la NFL, ce soir, Denver sera à San Diego.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Bienvenue dans l'émission Le Débrief. C'est parti, édition 13 octobre 2016. On a un petit peu de pluie à Victoria actuellement. C'est commencé, vous savez de quoi je parle. Tempête de pluie automnale, on a un avertissement météo, on va en parler tout de suite. Je mentionne d'abord le mercure, on a 12 degrés à l'université, tandis que c'est 13 degrés du côté du port de Victoria. Et c'est également 13 degrés à l'aéroport de Victoria, non loin de Sydney sur la péninsule. Alors, les nuages ont envahi le ciel, on avait un ciel gris toute la journée et la pluie a commencé il y a quelques minutes. Donc, je vais directement à cet avertissement météo concernant la pluie automnale, les vents forts également sont mentionnés. Donc, je vous lis le bulletin spécial concernant le Grand Victoria. La deuxième d'une série de tempêtes envahira la côte sud ce soir. De la pluie forte recommencera à tomber sous l'effet de cette tempête, mais des vents forts du sud-est sont la principale menace. Des avertissements de vent ont déjà été émis pour de nombreux secteurs de la côte sud. Les vents les plus forts sont prévus pour cette nuit et vendredi matin. La troisième et potentiellement la plus puissante tempête s'approchera de la côte samedi après-demain. Cette dépression sera accompagnée de vents très forts et de fortes pluies, mais la trajectoire exacte de la tempête demeure incertaine en ce moment. Les derniers modèles météorologiques observé par Environnement Canada prévoit une arrivée sur les terres quelque part entre l'État de Washington et le centre de l'île de Vancouver. Le pire scénario concernant les vents pour la côte des Détroits arrivera si la tempête touche terre le long du centre ou du sud de l'île de Vancouver. Par contre, si la tempête touchait terre le long de la côte de l'État de Washington, notre voisin du sud, la Colombie-Britannique ne serait pas autant touchée. Donc, on va suivre ça attentivement. Donc, pour ce soir, bien sûr, de la pluie. Je vais vous lire ce qui figure actuellement sur le portail de météo.gc.ca. Donc c'est nuageux, 40% de probabilité d'averse, pluie débutant tard cet après-midi, donc c'est commencé, c'est venteux, maximum de 14, pluie intermittente, en soirée, vent d'est de 30. 30 km/h devenant sud-est avec des rafales à 50 et même à 70 km/h après minuit. Et je mentionne que mon collègue Adrien Blanc, qui était à la conférence de presse de Lisa Helps un petit peu plus tôt, la maire a mentionné que la caserne de pompiers principale, qu'on appelle le Fire Hall No. 1, c'est sur Yates Street à l'adresse 1234, va ouvrir un refuge exceptionnellement, donc pour les itinérants, les sans-abri, jeunes et moins jeunes qui désirent prendre refuge si la tempête devient vraiment intense. Donc cette caserne est située au 1234 Yates, c'est à côté de l'intersection de la rue Camosun. On va aller aux nouvelles des Nations Unies dans quelques instants. On se retrouve de l'autre côté avec les nouvelles provinciales. À tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous. Christina Silvero pour ce journal de la radio des Nations Unies. En titre, coup de projecteur sur la nomination d'Antonio Guterres, secrétaire général désigné de l'ONU. Staffan de Mistura convie à la réunion de Lausanne sur la Syrie. L'OMS appelle à renforcer les efforts contre la tuberculose et nous marquerons la journée mondiale pour la prévention des risques de catastrophes.
May I take it that this is the wish of the General Assembly to adopt by acclamation draft resolution A/71.
C'est chose faite. L'Assemblée générale a nommé ce jeudi matin par acclamation, suite aux recommandations du Conseil de sécurité, le Portugais Antonio Guterres au poste de secrétaire général de l'ONU, achevant ainsi la procédure de sélection en deux temps mandatée par la charte de l'organisation. L'ancien Premier ministre du Portugal sera le 9e homme à diriger l'ONU et prendra la succession de Ban Ki-moon le 1er janvier 2017 pour un mandat de 5 ans. À l'issue de sa nomination, le secrétaire général des Il y a notamment appelé à créer une véritable diplomatie pour la paix, la grande absente de ce monde.
De par sa vocation mondiale et les principes consacrés dans sa charte, l'Organisation des Nations Unies a le devoir moral et le droit universel de mettre en œuvre comme priorité majeure la diplomatie pour la paix. Une diplomatie capable de faire valoir la diversité et le caractère représentatif de l'ONU. Une diplomatie capable d'apaiser les tensions et de faire émerger des solutions pacifiques aux conflits qui empêchent tant d'êtres humains d'avoir une vie digne de ce nom. Je suis bien conscient qu'il y a parmi nous des visions différentes et des intérêts légitimes, parfois divergents, qui créent des divisions et rendent difficile l'unité de notre action pour la paix. Mais les menaces qui pèsent sur notre sécurité collective, sur la nature même de nos sociétés, et la survie de la planète telle que nous la connaissons sont telles que notre intérêt commun doit s'imposer contre tout ce qui nous divise.
Lors de la cérémonie de nomination d'Antonio Guterres à la tête de l'ONU, l'actuel secrétaire général s'est félicité de la solide expérience politique de ce dernier pour ses nouvelles fonctions, citant notamment la décennie qu'il a passée à diriger le Haut Commissariat pour les réfugiés. On écoute Ban Ki-moon.
Le secrétaire général désigné Guterres est bien connu de nous tous dans cette enceinte, mais il est sans doute encore plus connu là où cela importe le plus, sur les premières lignes des conflits armés et de la souffrance humanitaire. Au cours de la dernière décennie, le travail du haut-commissaire pour les réfugiés et d'autres acteurs humanitaires a été un lien vital pour les millions de personnes obligées de quitter leur foyer. Et ils ont aussi fourni autre chose, la compassion. Ses instincts politiques sont ceux des Nations Unies, la coopération pour le bien commun et une responsabilité partagée pour les peuples du monde. Il a conscience de l'importance cruciale de l'autonomisation des femmes, des tables de la paix jusqu'au couloir de cette enceinte. Participant actif du conseil de direction et du conseil des chefs de secrétariat, il comprend le fonctionnement interne de l'organisation. Il représente un choix formidable pour guider cette organisation alors que nous nous fondons sur les progrès réalisés au cours de la dernière décennie tout en réagissant à l'insécurité et aux incertitudes du monde actuel.
Les Nations Unies ont renouvelé leur appel pour l'évacuation médicale de 200 personnes qui sont dans une situation critique à Alep, alors que selon certaines sources, 400 enfants ont besoin d'être évacués. Lors d'un point de presse à Genève, l'envoyé spécial adjoint pour la Syrie a plaidé pour l'arrêt des violences qui permettrait de fournir l'aide humanitaire aux populations vulnérables. C'est dans ce contexte que le chef de la diplomatie russe retrouve son homologue américain ce samedi à Lausanne, où est également attendu Staffan de Mistura. Mansoura. Alpha Diallo.
L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie est attendu ce samedi à Lausanne et se joindra au chef de la diplomatie américaine et russe. À Lausanne, il sera question de la crise syrienne, notamment d'un arrêt des violences, surtout à Alep, et de la reprise de l'aide humanitaire. Lors d'un point de presse jeudi à Genève, l'envoyé spécial adjoint a indiqué que Stéphane de Mistura poursuivait ses consultations avec les différentes parties syriennes, notamment pour avoir une amélioration de la situation humanitaire et des avancées sur la cessation des hostilités. En attendant, Ramzi Ezzeldin Ramzi est revenu sur cette semaine décevante sur le plan humanitaire, marquée par une privation de l'aide dans la province d'Alep où les populations continuent de souffrir des raids aériens et des combats. Par ailleurs, Ramzi Ezzeldin Ramzi a indiqué que son équipe a reçu une réponse négative de la part de l'organisation djihadiste Front Fatah Al-Cham. Il faut juste rappeler que Stéphane de Mistura avait demandé la semaine dernière à l'ex-front Al-Nusra de quitter l'Est d'Alep.
Les pays ont besoin de faire beaucoup plus pour prévenir, détecter et traiter la tuberculose si l'on veut atteindre les objectifs prévus. C'est ce que démontrent les données du dernier rapport sur la tuberculose de l'Organisation mondiale de la santé. La réduction de 90% des décès et une réduction de 80% des cas de tuberculose dans le monde font partie des objectifs de développement à l'horizon 2030. Or, cette maladie a tué 1,8 million de personnes en 2015. Aussi, pour le docteur Mario Raviglioni, directeur du programme mondial contre la tuberculose à l'OMS, au rythme actuel, il ne sera pas possible d'atteindre ces objectifs.
Avec un progrès comme on a vu dans la dernière année, ça ne sera pas possible. On s'attendait, après la décision de l'Assemblée mondiale de la santé en 2014, d'accélérer la réponse à la tuberculose et après l'inclusion de la tuberculose comme indicateur dans les buts du millénaire de développement soutenable, ça ne sera pas possible parce que moi, je m'attendais vraiment quelque chose de beaucoup plus rapide et de beaucoup plus, comme on peut dire, politiquement chargé de ce qu'on a vu jusqu'au moment. Il y a seulement quelques pays qui font bien. Je cite par exemple l'Afrique du Sud ou bien l'Inde. Ils ont mis en place par exemple des réseaux de diagnostic avec ce qu'on recommande aujourd'hui. Mais il y a beaucoup d'autres pays qui n'ont pratiquement rien fait. Et ça me préoccupe beaucoup. Le problème, c'est le problème plutôt de la volonté politique qui manque pour accélérer ces progrès.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Au cours des 20 dernières années, plus de 7000 catastrophes naturelles ont tué 1,3 million de personnes, notamment lors de séismes ou de tsunamis. C'est ce qui ressort du rapport publié par la Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies à l'occasion de la Journée internationale de prévention des catastrophes. Pour en savoir plus, Wissam El-Bouzdaini a rencontré Dabarati Guha-Sapir, directrice du Centre de recherche sur l'épidémiologie des catastrophes à l'Université de Louvain en Belgique. Elle revient d'abord sur les principaux défis.
Aujourd'hui, c'est des inondations. C'est un phénomène qui est en pleine croissance, qui est non seulement en pleine croissance en termes des nombres des événements, mais aussi leur impact sur les êtres humains. Il commence à avoir beaucoup plus de gens qui sont tués par les inondations. Et ça, c'est pour moi la plus grande priorité pour le moment dans le monde.
Vous avez fait ressortir une corrélation entre le niveau de développement des pays et leur degré d'atteinte en général par les désastres. D'après vous, d'où vient cette corrélation?
Nous avons fait pas mal de recherches sur ça, mais c'est leur population la plus démunie, même à l'intérieur de leur pays, qui sont tous exposés à un désastre, c'est-à-dire si vous avez les gens riches et les gens pauvres qui sont tous les deux exposés à un désastre, ça sera la partie de la population qui sont le plus pauvre qui vont payer le pot cassé. Ça, c'est clair. Je crois qu'il n'y a pas une discussion sur ça.
Pourquoi, à votre avis?
Une partie, ça c'est dans beaucoup de pays maintenant, la population pauvre s'installe dans des zones à risque. Parce que ça, c'est des terrains qui sont moins chers ou qui sont pas chers du tout parce que personne ne veut vivre là. Donc, ils vivent sur des inclinations à côté. Donc, les moindres glissements de terrain ou de tremblements de terre, leurs petites maisons sont complètement effondrées. La même chose avec les inondations, c'est des pauvres paysans qui vivent sur les zones qui sont inondées tous les ans parce qu'ils n'ont pas un autre choix. Donc, les gens pauvres n'ont pas beaucoup de choix de se choisir d'aller vivre dans des régions plus sûres et donc, ils sont plus exposés, plus vulnérables.
Et à votre avis, est-ce qu'il faut davantage de contributions de la part des pays riches pour aider les pays en voie de développement à mieux se prémunir contre les désastres?
Vous savez, moi j'ai des vues un peu controversées sur l'aide. Je viens d'un pays en voie de développement et ce n'est pas immédiatement clair pour moi si l'aide de le pays développé sont nécessairement la meilleure solution. C'est la responsabilité de le pays, des gouvernements responsables pour leur peuple et c'est eux qui doivent prendre cette responsabilité. On peut peut-être faciliter, mais aider, je suis pas sûre.
Et si ces pays manquent de ressources financières, notamment pour avoir des infrastructures plus adéquates pour prévenir les risques de désastres, quelle est la solution à votre avis?
Écoutez, il y a des pays extrêmement pauvres qui n'ont pas les moyens de faire le nécessaire pour l'infrastructure. Mais il faut dire aussi, il y a beaucoup de pays qui sont pauvres, moyens pauvres, qui dépensent leur argent dans une façon qui sont vraiment ni efficaces, ni pour l'intérêt de la population. Donc moi je trouve il faut pas créer des alibis pour ce gouvernement et ces États qui ne représentent pas leur intérêt de le peuple avec l'argent qu'ils ont. Il faut mettre la pression sur le gouvernement pour faire une dépense beaucoup plus efficace et beaucoup plus rationnelle.
Voilà, fin de ce journal de la Radio des Nations Unies, à retrouver sur Internet et les médias sociaux. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Vous syntonisez CILS FM 107,9 à Victoria. Merci d'écouter votre station communautaire francophone, la seule station communautaire francophone à l'ouest des Rocheuses. On va passer aux nouvelles provinciales à présent. Victoria, meilleure ville pour les femmes au Canada, donc meilleure ville pour la condition des femmes au Canada. C'est une nouvelle qui nous est arrivée aujourd'hui. La maire de Victoria, Lisa Helps, a d'ailleurs donné une conférence de presse un petit peu plus tôt aujourd'hui. Mon collègue Adrien Blanc était sur place, je vous le disais en intro d'émission. On va s'en parler un petit peu plus tard vers 16h45. Donc je vous fais un bref topo histoire de vous donner les infos vitales. C'est la ville de Victoria en Colombie-Britannique qui prend le premier rang du palmarès dressé par Kate McInturf, chercheuse principale du Centre canadien de politique alternative, un centre qui a classé les plus grandes régions métropolitaines au pays. Madame McInturf a expliqué avoir examiné l'écart entre les hommes et les femmes pour ce qui est de l'accès à la sécurité économique, la sécurité personnelle, l'éducation, la santé et les positions de leadership dans les grandes villes canadiennes. Et devinez quoi, c'est Victoria qui arrive au sommet. On va en parler un petit peu plus tard avec Adrien vers 16h45. Restez à l'écoute. On parle maintenant de circulation automobile. Vous le savez, il y a souvent de durs et de longs embouteillages sur la Transcanadienne, cette autoroute numéro 1 qui rejoint Nanaimo et qui est souvent bouchonné, oui, à la hauteur de Mackenzie. Donc il y a le projet gouvernemental de construire un échangeur qui va prendre le nom de Mackenzie tout simplement, et le gouvernement de Colombie-Britannique a communiqué à ce sujet ces derniers jours. L'échangeur Mackenzie ne perturbera pas la circulation sur la route transcanadienne. C'est la manchette qu'on peut trouver dans le portail de Radio-Canada aujourd'hui. La construction de l'échangeur Mackenzie n'aggravera pas la circulation sur la route transcanadienne près de Victoria en Colombie-Britannique, a annoncé le ministère des Transports de la Colombie-Britannique. Le nouvel échangeur, qui doit coûter 85 millions de dollars, est en construction juste à la sortie de Victoria. Il doit aider au désengorgement des embouteillages sur l'île de Vancouver. Il faut parfois plus d'une heure, vous le savez, pour faire quelques kilomètres au plus gros de la circulation en partance et en direction de la rive ouest de Victoria. La première phase de construction cet hiver, donc hiver 2016-2017, sera assurée de manière à permettre un flux continu de circulation sans aggraver la situation existante, a expliqué Janelle Irwin, qui est directrice régionale du ministère des Transports de Colombie-Britannique. Nous souhaitons, a-t-elle dit, accroître la prévisibilité de la circulation pour les usagers. Nous allons travailler en dehors des heures de pointe, a-t-elle déclaré. Je vous mentionne un fait divers très triste. Malheureusement, un champignon toxique cueilli à Victoria a emporté un jeune garçon de 3 ans. Un petit garçon de 3 ans est mort après avoir consommé un champignon vénéneux, l'amanite phalloïde ou calice de la mort, comme on l'appelle. Il a été cueilli en famille la semaine dernière au centre-ville de Victoria. Il s'agit du premier décès lié à cette espèce de champignon en Colombie-Britannique. Un médecin cité dans l'article de Radio-Canada rappelle que la différence entre un champignon vénéneux et un champignon non toxique et parfois d'une subtilité telle qu'elle ne se détecte qu'au microscope. Le calice de la mort, comme on l'appelle, a été aperçu pour la première fois en Colombie-Britannique en 1997, rapporte un mycologue, donc un spécialiste des champignons qui est interrogé dans cet article. L'origine de ce champignon remonterait à sa présence dans des racines d'arbres qui ont été importées d'Europe il y a quelques dizaines d'années. Donc c'est la provenance de cette espèce exogène. Cette espèce de champignon donc est désormais présente à Victoria. C'est bon de le savoir, c'est bon de le rappeler à la lumière des récents événements, car il y a également un homme, donc un adulte de Victoria qui a été gravement malade récemment. Il avait lui aussi ingéré ce fameux champignon, donc à surveiller pour les amateurs de cueillette. L'espèce en question est responsable du plus grand nombre de morts par champignon au monde. Sinon, je vous parle d'un autre cas de santé publique, ça concerne la marijuana médicinale. La marijuana médicinale dans l'avion, oui, c'est possible, mais avec l'ordonnance du médecin. C'est une nouvelle qu'on trouve également sur le portail de Radio-Canada. L'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, l'ACSTA, a indiqué mercredi que les passagers qui prennent l'avion avec de la marijuana pour des raisons médicales doivent désormais fournir l'ordonnance de leur médecin traitant. Après plus d'une décennie de confusion dans les aéroports du Canada, l'ACSTA apporte des éléments de réponse finalement aux passagers qui voyagent avec du cannabis médicinal. Les agents de contrôle de l'aéroport sont aussi tenus d'appeler la police pour vérifier l'authenticité des documents fournis par les voyageurs. Une nouvelle à présent qu'on trouve dans le portail Huffington Post francophone, William Shatner alias Capitaine Kirk, que vous connaissez sans doute si vous avez suivi la fameuse série Star Trek. On compte ici à CILS quelques Trekkies, donc des mordus de Star Trek. Alors, William Shatner appuie un projet du NPD provincial pour sauver le saumon du Pacifique. C'est dans le Huffington Post. Je vous rapporte rapidement les quelques lignes de cet article. La pêche a été bonne pour le député néo-démocrate Finn Donnelly. Il peut compter sur l'appui de l'acteur canadien William Shatner pour son projet de loi privé qui vise à protéger le saumon du Pacifique. Le saumon sauvage est un trésor national, mais son avenir est en péril, a déclaré le capitaine Kirk, donc William Shatner. Il est menacé par le pouls du poisson et par des maladies résultant de l'utilisation de parcs en filet. Le projet de loi C-228 propose de modifier la loi sur les pêches afin de freiner l'expansion de la pisciculture avec des enclos ouverts et assurer une transition vers les parcs clos d'ici 5 ans. C'est dans le Huffington Post. Autrement, retour sur le portail de Radio-Canada, crise du logement et surenchère de l'immobilier en Colombie-Britannique. On apprend que les locataires à faible revenu de la région de Vancouver sont poussés à la rue et ceux qui s'y trouvent déjà ne peuvent plus retrouver un logement selon un nouveau rapport de l'Université de Victoria et de l'Union Gospel Mission, de la Mission Gospel. Les prix exorbitants, rapporte cet article, des loyers et le faible taux d'inoccupation des logements à Vancouver entraînent une situation difficile pour une certaine catégorie de travailleurs aux revenus modestes. Les personnes à faible revenu font face à un marché du logement de plus en plus inabordable et sélectif, a affirmé Bernie Pauly, professeur à l'Université de Victoria. Il est l'auteur de cette étude, donc c'est rapporté dans le portail de Radio-Canada ces jours-ci. L'article mentionne également que les centres d'hébergement de Vancouver sont actuellement pleins. Donc, une situation alarmante pour l'accès au logement des personnes à faible revenu du côté de Vancouver. Et la situation n'est pas très rose non plus ici à Victoria. Je termine ce segment provincial de l'émission avec une nouvelle aperçue sur le portail de CBC en anglais. On rapporte qu'un remorqueur de pétroliers a échoué sur la grève à proximité de Bella Bella, donc dans le littoral nord de la Colombie-Britannique. Donc Bella Bella, c'est une île très près, situé très proche de la côte. C'est dans un secteur d'île très dense avec des chenaux très étroits. On rapporte que ce remorqueur ne contenait pas, bien sûr, de pétrole, puisque c'est un remorqueur, mais tout de même, son réservoir de diesel a fuité et ça représente quelques milliers de litres de diesel qui vont probablement s'échapper dans la mer. Donc voilà qui n'est pas rassurant. Vous le savez, ces îles du littoral nord sont très nombreuses. Elles sont difficiles de navigation et c'est là justement que différents projets de pipelines doivent déboucher. Le gouvernement Trudeau a déjà donné son aval au projet Pacific Northwest, qui est un projet de port méthanier où se terminerait un pipeline de gaz naturel liquide. Donc c'est en plein dans cette région-là. La circulation des navires est très difficile. On en a encore la preuve aujourd'hui avec la nouvelle de ce remorqueur qui s'est échoué sur la grève à proximité de Bella Bella. On fait une petite pause musicale. On écoute l'artiste Louis-Jean Cormier avec une pièce qui s'intitule « Saint-Michel ».
Décoloré par la fin de l'automne, le monde a l'air tout noir, sorti de l'est. Même la brume semble peser des tonnes. Vert, jaune et rouge, c'est tout ce qu'il me reste.
écoutez le débrief à l'antenne de CILS FM 107,9, 16h33 à Victoria. Si vous nous écoutez en rediffusion dans la matinée du 14 octobre, bienvenue dans l'émission. On est encore ensemble environ 25 minutes, 26 minutes. On va commencer la section des nouvelles du jour. Je vous rapporte un article aperçu dans le portail Le Monde. En Thaïlande, la transition est incertaine après la mort du roi Bhumibol. Le prince héritier a notifié les autorités qu'il comptait observer le deuil et prendra le trône un petit peu plus tard après la période de deuil. Je vous lis quelques passages de cet article paru dans Le Monde aujourd'hui. La mort du roi de Thaïlande jeudi 13 octobre après 70 ans de règne ouvre une période de transition incertaine. Le prince héritier, 64 ans, dont la personnalité suscite des réticences au sein de l'appareil politique et militaire du pays, doit succéder à son père, mais il a demandé un délai avant de monter sur le trône pour porter le deuil en même temps que le peuple de Thaïlande. Les sujets du roi s'étaient massés, rapporte Le Monde, à l'entrée de l'hôpital Sirijaj à Bangkok. Beaucoup se sont effondrés en larmes lorsqu'ils ont eu vent du communiqué annonçant que le souverain était, entre guillemets, décédé apaisé vers 16h52. La période de deuil durera un mois. Le roi a passé l'essentiel de la dernière décennie, rapporte Le Monde, entre l'hôpital Sirijaj de Bangkok et une résidence dans la station balnéaire de Hua Win. Ses apparitions étaient de plus en plus rares. La disparition du souverain était un dénouement tant anticipé que craint, car depuis son accession au trône en 1946, donc ça fait effectivement 70 ans, le souverain avait été le ciment d'un pays en proie à l'instabilité. L'armée jouait le rôle de juge et d'arbitre au fil des coups d'État. Donc c'est un portrait posthume, si vous voulez, du souverain thaïlandais. C'est dans le journal Le Monde en date d'aujourd'hui, 13 octobre. Toujours dans Le Monde, cette fois c'est rapporté par l'agence France Presse concernant le Nobel de littérature qui a été attribué aujourd'hui. Grosse surprise, il a été remis à Bob Dylan et je vous cite tout de suite le titre de cet article. Des écrivains contestent l'attribution du Nobel. On attendait le poète d'origine syrienne Adonis ou l'écrivain kényan Ngugi Wa Thiong'o, mais l'attribution du Nobel de littérature au chanteur Bob Dylan a provoqué la stupéfaction chez certains auteurs, suscitant des questions sur la définition même de l'écrivain. C'est la première fois depuis la création du Nobel de littérature qu'un chanteur est honoré, alors que de grands écrivains comme Philip Roth, Joyce Carol Oates ou encore Don DeLillo, pour n'évoquer que des auteurs américains, puisque Bob Dylan est américain, alors ces auteurs, eux, attendent toujours. Bob Dylan les a coiffés au poteau, si vous voulez. Donc, c'est lui qui a le Nobel cette année. Des commentaires ironiques ont fusé sur les réseaux sociaux, rapporte le journal Le Monde. Ainsi, l'Académie, qui n'a jamais reconnu Borges, choisit Dylan. Ça, c'est un tweet que Le Monde rapporte. Autrement, Le Monde s'est tourné vers l'écrivain Pierre Assouline, qui est membre de l'Académie Goncourt, et celui-ci n'y va pas par quatre chemins. Le nom de Dylan, dit-il, a été souvent cité ces dernières années, mais ça a toujours été pris pour un canular. Lui attribuer le Nobel de littérature, c'est affligeant, a déclaré le romancier Pierre Assouline. J'aime Dylan, a-t-il dit, mais il n'a pas d'œuvre. Je trouve que l'Académie suédoise se ridiculise, c'est méprisant pour tous les écrivains, a-t-il dit. Il y a eu des réactions favorables à cette nouvelle. Le Monde les rapporte. Il y a notamment l'écrivain britannique Salman Rushdie qui a applaudi ce choix. Il a écrit « C'est un excellent choix ». Sur son compte Twitter, il a signalé que de nombreux Il a comparé, si vous voulez, Dylan à un troubadour, à un barde. D'Orphée à Fès, chansons et poésie ont toujours été intimement liées. Dylan est le brillant héritier de la tradition des bardes. Donc voilà l'avis de Salman Rushdie. Donc les réactions sont partagées. Certains applaudissent, d'autres sont très 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 remontés. C'est le cas de l'écrivain qui avait signé Trainspotting dans les années 80. Trainspotting qui avait donné ensuite lieu à une adaptation cinématographique. Donc vous voyez sans doute de quel écrivain je parle. Cet écrivain-là a été très dur envers l'Académie suédoise. Pour les autres citations, je vous encourage à consulter cet article du Monde qui fait un petit peu le recensement des réactions dans le monde littéraire. L'article s'intitule « Des écrivains contestent l'attribution du Nobel ». C'est un article de l'AFP publié dans le journal Le Monde. Il y a aussi un article fort intéressant aperçu dans le portail de Radio-Canada aujourd'hui concernant le pape François et la petite révolution qu'il est en train de mener à l'intérieur du Vatican. L'article de Radio-Canada rapporte qu'il a vraiment entamé une démarche de transparence à l'intérieur du Vatican. Ça concerne notamment les finances du Vatican et le titre donne tout de suite le ton. Le pape bouscule les cardinaux et la mafia. Article fascinant, je vous le recommande vivement, c'est sur le portail de Radio-Canada aujourd'hui. On retourne en musique, il est 16h40, merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9. On écoute l'artiste Vincent Appleby, une pièce qui s'intitule Le Hibou. Et de l'autre côté, on jette un petit regard sur les éditoriaux parus au cours des derniers jours.
L'heure du calan, je n'ai même pas réussi à soulever le temps. Et même si tu es en temps, l'on n'a plus de sang.
Vincent Appleby dans le débrief à 16h43. Si vous nous écoutez en rediffusion dans la matinée du 14 octobre, bienvenue dans l'émission. On passe à la revue de presse des éditoriaux. On va commencer par une lettre d'opinion qui a été publiée dans le portail Ricochet, ricochet.media, côté francophone. Le Canada, l'accord de Paris et l'AECG, il faudrait applaudir, point d'interrogation. C'est une lettre ouverte de Catherine Caron. Je vous en cite quelques passages. Voilà qu'il nous faudrait applaudir. Le Canada a ratifié l'accord de Paris le 5 octobre dernier et le 27 octobre prochain, lors d'un sommet Canada-Union européenne prévu à Bruxelles, on attendra aussi de nous qu'on applaudisse à la signature de l'accord économique et commercial global, l'AECG, ou CETA en anglais, entre le Canada et l'UE, donc un accord économique entre le Canada et l'Union européenne. Et il faudrait donc applaudir, écrit Catherine Caron, sans voir la moindre contradiction donc entre l'accord de Paris et cet accord économique, pardon. Eh bien non, écrit-elle, nous n'applaudirons pas, car il est plus que temps que nos gouvernements accordent les violons du commerce avec ceux du climat. On ne peut pas d'un côté prétendre lutter contre le réchauffement climatique et de l'autre côté conclure une entente comme l'accord économique et commercial global. Dans une lettre intitulée « Si le CETA passe, l'accord de Paris sur le climat trépasse », des représentants de divers mouvements altermondialistes et écologistes l'ont rappelé, ratifier le traité commercial entre l'Europe et le Canada reviendrait à clamer haut et fort que l'accord de Paris n'a rien changé et que la transition énergétique n'est pas pour demain. La même semaine, Greenpeace Pays-Bas ajoutait un chapitre à la saga du dévoilement. Ils ont, je vous rapporte en substance un petit peu ce passage. Donc, Greenpeace Pays-Bas qui a réussi à faire connaître grâce à une fuite des documents se rapportant à un accord sur le commerce des services, l'ACS. Donc, Catherine Caron reprend dans un autre paragraphe. De fait, l'accord économique global comme l'accord sur les services contiennent le même cocktail corrosif pour l'environnement, entre autres. Tous les carburants, les plus nocifs comme les plus propres, y sont considérés comme étant égaux. Voilà le principe de non-discrimination cher aux technocrates du commerce, poussé à son extrême au point d'en devenir climaticide. Accepter cela sans qu'aucune disposition ne permette de limiter l'exploitation ou l'importation d'énergie fossile, c'est agir en faveur du pétrole ultra-polluant tiré des sables bitumineux et en faveur du gaz et du pétrole de schiste, et non en fonction des objectifs de l'accord de Paris. Donc voilà, c'est dit, c'est très clair. C'est une lettre signée par Catherine Caron dans le portail Ricochet, qui est un portail bilingue, anglophone et francophone. Vous le trouverez à l'adresse ricochet.media. /fr. Je me transporte à présent rapidement dans les pages du journal Le Devoir. C'est un papier de Manon Cornelier que je souhaitais attirer, sur lequel j'ai souhaité attirer votre attention depuis quelques jours. C'est un papier qui remonte au 8 octobre, mais il est important de le mentionner. Ça s'intitule « Au-delà des excuses, ça concerne le harcèlement à la GRC ». Je vous en lis quelques lignes. « Nous vous avons trahi. L'alarme à l'œil, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, Bob Paulson, n'a pas pris de détour jeudi 6 octobre pour présenter ses excuses aux femmes ayant été victimes d'intimidation, de discrimination et de harcèlement au sein de la GRC. Mais, comme il l'a dit lui-même, ce jalon important ne résout pas tout. Et je vous lis les deux paragraphes les plus pertinents, les plus cruciaux de ce texte de Manon Cornelier, qui est correspondante du Devoir à Ottawa. expurger une organisation de sa culture machiste et de sa soumission à la chaîne de commandement n'est pas une sinécure. Les forces armées en savent quelque chose. Bob Paulson aussi. La transformation du milieu de travail, notamment sur le plan de la culture, ne se fait pas du jour au lendemain, ni en l'espace d'une année ou même de 5 ans. Cela prend une génération, avait-il déclaré en avril dernier. Dans ce contexte, peut-on vraiment s'en remettre à un processus de traitement des plaintes qui n'est pas totalement indépendant? Professeur de droit à l'Université Laval et spécialiste des questions de harcèlement, Louise Langevin en doute, comme le suggérait la juge Marie Deschamps pour les forces armées, donc pour le cas des forces armées qui est antérieur. Il faut qu'un mécanisme séparé de la GRC qui protège la confidentialité des plaignantes et mène les enquêtes. Donc un organisme pleinement indépendant, c'est pas le cas actuellement, souligne Manon Cornelier dans ce texte sur le harcèlement à la GRC qui s'est perpétré sur de nombreuses décennies et on s'attend à ce que 500 plaignantes soient dans ce recours collectif contre la GRC. On va se rendre à l'interview du jour. Je vous le disais au fil de l'émission, on parle aujourd'hui de cette belle première place qu'a obtenue la ville de Victoria dans le dossier de la condition de la femme. Donc c'est à Victoria que les femmes auraient les meilleures conditions de vie. C'est ce qui ressort d'une étude qui a été rendue publique aujourd'hui. Mon collègue Adrien Blanc était à la conférence de presse qu'a donné en réaction la maire Lisa Helps un petit peu plus tôt aujourd'hui. Donc, il nous rapporte dans quelques instants ce qu'a dit la maire et nous rappelle un petit peu les critères de cette étude. C'est dans quelques instants à l'antenne de CILS, vous écoutez le débrief. De retour dans le débrief, il est bientôt 17h à l'antenne de CILS FM 107,9 à Victoria. C'est justement de Victoria dont on parle aujourd'hui avec Adrien Blanc. Bonjour Adrien.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors on a appris une nouvelle à propos de Victoria. Victoria s'est classée favorablement dans un palmarès pan-canadien. Il se trouve que Victoria serait la ville où la qualité de vie des femmes est la meilleure.
Oui, voilà, c'est un classement donné par le Canadian Center for Policy Alternatives. Donc c'est une doctorante, une chercheure spécialisée dans les gender studies, comme on dit, qui a mené l'étude pour ce centre qui propose des politiques alternatives. Et donc le centre a évalué 25 villes dans tout le Canada. Et il a trouvé que c'était Victoria qui était la meilleure ville pour les femmes, qui, on va dire, respecte le mieux les femmes.
Oui, donc voilà. Alors, il faut préciser un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire meilleur? Quels étaient les critères?
Alors, il y a 5 critères. Donc, c'est la place des femmes au pouvoir, la sécurité économique des femmes, la réussite scolaire, la santé et la sécurité. L'étude se fonde surtout sur les données statistiques gouvernementales ou d'institutions reconnues. Et à partir de là, ils ont établi un classement entre ces 25 villes.
Tu étais sur place à la conférence de presse de la maire Lisa Helps.
Oui, ben déjà, elle disait qu'elle était très heureuse parce qu'en fait, c'est la deuxième fois que Victoria remporte ce classement, donc c'est quand même assez impressionnant. Bien sûr, elle disait qu'elle était enchantée et surtout, elle était frappée par un chiffre dans cette étude qui dit qu'en fait, les femmes sont devant les hommes en termes de niveau de pauvreté, c'est-à-dire elles sont moins pauvres que les hommes. Ça veut dire qu'il y a 17% des hommes qui sont sous le taux de pauvreté canadien pour 14% des femmes. Voilà, donc elle se classe mieux à ce niveau-là. Et en effet, au niveau général, Victoria est au numéro 5 dans le classement de ces 25 villes en termes de respect des femmes. Alors, pourquoi aussi une meilleure sécurité économique pour les femmes que pour les hommes? Déjà, c'est parce qu'il y a un plus petit écart dans le taux d'emploi. Mais ça, c'est surtout parce qu'il y a plus de chômage des hommes qu'ailleurs au Canada.
Ah bon ?
Il y a aussi un plus petit écart dans le revenu moyen. Et là aussi, c'est parce que le revenu des hommes est plus bas en moyennement que par rapport au reste du Canada. Donc en fait, c'est une différence entre hommes et femmes qui est plutôt négative pour la population de Victoria. Ça veut dire qu'il y a encore des progrès à faire, et c'est ce que Lisa Helps a souligné. Elle a dit, ça montre que la municipalité doit travailler encore plus pour hausser le niveau de vie à la fois des femmes et des hommes.
D'accord. Tu comptes en parler dans ton émission?
Oui, mon émission, Rendez-vous, qui a lieu tous les jeudis à midi, rediffusée le vendredi à 17h et le samedi à 11h. J'ai l'enregistrement de la réaction de Madame le maire qui revient sur chacun des détails de cette étude. Et donc, je pense que ça sera intéressant de l'écouter en anglais, puisque ça sera la langue originale.
Oui, Rendez-vous étant effectivement une émission bilingue, anglais-français. Est-ce qu'il y a eu d'autres interventions lors de cette conférence de presse?
Non, il n'y avait qu'elle, mais il faut quand même souligner qu'elle a beaucoup parlé des questions de la place des femmes au pouvoir, parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui fait que Victoria est numéro 1 dans le classement du respect des femmes. Victoria est numéro 2 dans cette catégorie de la place des femmes au pouvoir. Déjà parce que madame la maire est une femme, Lisa Helps. On peut souligner aussi que la première ministre de la Colombie-Britannique est une femme aussi, Christy Clark.
Et ça joue dans la comptabilisation?
Alors peut-être pas la première ministre.
D'accord.
Mais la maire a dit que ça jouait en faveur de la place des femmes au pouvoir. C'est un exemple de plus. Mais par contre, ce qu'elle a noté avec raison, c'est que dans les 3 plus grands postes de pouvoir qu'il y a ici à Victoria, on retrouve des femmes. Donc, elle a cité la Chambre de commerce de Victoria, l'Association des entreprises du centre-ville de Victoria, et puis la South Island Property, qui est aussi dirigée par une femme. Et l'étude de ce Center for Policy Alternatives montre qu'il y a 37% de femmes au plus haut poste de pouvoir dans les entreprises. C'est pas le meilleur score au Canada, mais c'est quand même encourageant. Il faudrait arriver à 50-50, évidemment. Et Madame la maire en a profité pour répondre un peu à un préjugé qui existe encore beaucoup dans les médias, dans la politique, qui est celui de toujours commenter l'apparence des femmes. Et donc, à ce niveau-là, elle a dit qu'elle en avait assez de ce genre d'attaque. C'était une attaque trop facile qu'elle avait déjà subie, et qu'elle demande à ses adversaires, aux hommes, de toujours l'attaquer sur sa politique avec des arguments constructifs. On peut citer les 3 autres critères dont je parlais au tout début de l'interview. Donc, il y a le critère de la réussite scolaire, où là aussi, Victoria est bonne. Elle est classée numéro 11 dans la catégorie réussite scolaire, avec plus de femmes diplômées que d'hommes à Victoria, 26% de femmes contre 25% d'hommes. Et puis, les femmes ont aussi un meilleur taux de réussite déjà à l'école et au collège. Voilà.
Donc, ça commence déjà très jeune.
Ouais, c'est un bon score donc, pour Victoria.
Très bien. On peut peut-être citer les autres villes canadiennes qui se sont faufilées dans ce palmarès. Il faut mentionner que le Québec fait très bonne figure. Donc, à tous ceux qui nous écoutent, qui ont des origines québécoises, on a bien sûr Victoria en tête de liste en numéro 1. C'est ensuite Kingston, une ville de l'Ontario. Et c'est suivi de London, une ville ontarienne également. Et après, on retrouve Québec, Gatineau et Montréal consécutivement. Et Sherbrooke aussi. Et après, c'est la ville de Saint-Jean, Terre-Neuve et Labrador, suivie de Vancouver, notre voisine, qui est quand même assez éloignée de Victoria. C'est assez intéressant de le constater, mais tout de même dans le top 10. Et finalement, c'est Halifax qui ferme la marche en 10e place. Donc voilà, belle nouvelle pour Victoria. Victoria qui a d'ailleurs un nom très féminin. Alors, c'est vrai. C'est peut-être logique.
En l'honneur de cette femme de pouvoir, la reine Victoria. C'est
voilà.
Vrai.
Merci beaucoup Adrien.
Merci à vous.
Voilà, c'est ainsi que se conclut cette édition du débrief. Merci de nous avoir accompagnés dans cette heure d'information à l'antenne de CILS FM 107,9. Alexis Gagnon au micro. On se retrouve lundi 17 octobre, demain vendredi à 16h comme chaque vendredi, c'est Sport et Santé Magazine. Soyez à l'écoute. Excellente soirée à tous.